Il est 12h30 sur France Culture. L'heure du journal avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La démission de Christiane Taubira, remplacée au ministère de la Justice par Jean-Jacques Urvoas, un proche de Manuel Valls, des parcs qui signent le virage sécuritaire du gouvernement qui perd l'une de ses dernières cautions de gauche. Commentaires et explications avec Frédéric Seyss dans un instant. Nommée garde des Sceaux dès le premier gouvernement Hérault en mai 2012, Christiane Taubira a notamment fait adopter la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe et aussi une réforme pénale qui crée une nouvelle sanction, la contrainte pénale. On reviendra sur son bilan avec Antoine Marette. Dernière mouture du texte de révision constitutionnelle avant son passage au Parlement. Le gouvernement va supprimer toute référence aux binationaux dans le texte de la réforme constitutionnelle. Donc, analyse avec Stéphane Robert. Les négociations sur la Syrie vont-elles effectivement pouvoir s'ouvrir après-demain à Genève comme prévu? Laurent Fabius affirme qu'il y a encore trois questions en suspens. D'abord, qui participe? Qu'est-ce qu'on fait au niveau humanitaire? Et aussi, de quoi va-t-on parler? Commentaire sur cette réunion dans deux jours, donc avec Eric Biegala. Le président iranien Hassan Rouhani attendu tout à l'heure à Paris. Ce matin à Rome, il assure n'avoir fait aucune demande auprès de ses hôtes italiens pour que les statues dénudées du musée du Capitole qu'il a visité hier soir soient cachées par des paravents pour ne pas l'indisposer. Suivi de cette affaire avec Bruno Cadenne, l'invité de la séquence interview, Florian Philippot, vice-président du Front National. Dans la dernière partie, Caroline.
Dans le cadre de cette journée de France Culture, Idées sans frontières, nous recevrons la sociologue Saskia Sassen, qui continue de penser le monde global autour d'une nouvelle notion, expulsion. Nous en parlons avec elle. Ses propos seront traduits par Pascal Fougère.
Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. C'est en ces termes que Christiane Taubira a expliqué donc ce matin sa démission du gouvernement. La déchéance de nationalité aura eu raison finalement de la garde des Sceaux qui était opposée à cette réforme. Elle va donc être remplacée par Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls. C'est lui qui va notamment l'accompagner, accompagner le Premier ministre dans le débat sur cette réforme constitutionnelle sur laquelle on va évidemment revenir. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Antoine.
Départ de Christiane Taubira qui va évidemment au-delà d'un simple remaniement, remplacement ministériel, puisqu'il signe l'évolution d'une ligne politique de l'exécutif. Madame Taubira quitte le gouvernement en plein virage sécuritaire. François Hollande souligne d'ailleurs la nécessité de la cohérence dans l'action et aussi de l'éthique collective.
Oui, comme le dit ce matin un député PS frondeur, Taubira, c'était la dernière figure qui empêchait la gauche et une partie des militants de désespérer complètement de ce gouvernement. C'est en fait le dernier acte de ce qu'on avait appelé la clarification. Souvenez-vous, à la fin de l'été 2014, Montebourg, Hamon et Filippetti sont éjectés du gouvernement. Tous trois critiquent à l'époque l'orientation économique et plaident pour un desserrement de la contrainte budgétaire, pas dans la ligne Hollando-Valsiste. À l'époque, Christiane Taubira, même si elle est très proche des partants, choisit de rester. Son combat, elle, n'est pas économique, il est sur les valeurs et elle répète à qui veut l'entendre qu'elle pèse davantage au sein du gouvernement qu'en dehors. Le tweet que vous avez cité ce matin en est l'illustration. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot, à l'éthique et au droit. Un tweet publié à 9h15, juste après son rendez-vous avec François Hollande. Si l'on observe la physionomie du gouvernement, l'arrivée de Jean-Jacques Urvoas, le rocardien, proche de Manuel Valls, marque l'avènement d'un gouvernement idéologiquement monocolore à la main du couple exécutif. D'un côté, des ministres expérimentés qui sont des proches historiques comme Jean-Yves Le Drian, Michel Sapin. De l'autre, des jeunes pousses qui n'ont pas de poids politique propre ou de troupes dévouées comme Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem ou Myriam El Khomri. Seuls Ségolène Royal et Laurent Fabius ont encore les moyens d'une certaine autonomie. Et encore, les bisbilles Royal Valls sont récurrentes et Laurent Fabius est donné partant avec insistance vers le Conseil constitutionnel, dont une partie des sièges se renouvelle à la mi-février. Pour juger de la politique d'un gouvernement, on parle souvent de son assise politique. Le risque est grand désormais de ne trouver que des ministres couchés.
Frédéric Seyss, merci beaucoup. Commentaire politique, nommé garde des Sceaux dès le premier gouvernement Hérault, c'était en mai 2012. Madame Taubira a notamment fait adopter, on s'en souvient, la loi dite du mariage pour tous et puis cette réforme pénale qui a créé une nouvelle sanction, la contrainte pénale. Antoine Marette.
Effectivement, deux réformes marquées à gauche, une sociétale, l'autre judiciaire. C'est sans doute la loi autorisant le mariage homosexuel que l'histoire retiendra et notamment le discours de Christiane Taubira à l'Assemblée nationale lors de la présentation du texte en janvier 2013. son éloquence la hisse à la hauteur de Simone Veil lors de son discours pour la légalisation de l'avortement en 1974 et de Robert Badinter lorsqu'il abolit la peine de mort en 1981. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe rencontre une très forte opposition assez inattendue dans certains milieux catholiques, opposition reprise alors par la droite, avant qu'une à une les différentes personnalités de l'opposition ne se résolvent à graver dans le marbre cette réforme. Le dernier en date est Nicolas Sarkozy. Il n'y a quasiment plus désormais que l'extrême droite qui veut abolir le mariage gay. L'autre réforme marquante de l'ère Taubira, c'est la contrainte pénale adoptée en juillet 2014. Elle permet dans certains cas, pour des délits et non des crimes, d'effectuer une peine en milieu ouvert avec une série d'obligations et d'interdictions. Son objectif est de prévenir la récidive en mettant fin au tout carcéral. La contrainte pénale s'inspire des peines de probation qui existent dans certains pays anglo-saxons. Le gouvernement attendait entre 8 000 et 20 000 condamnations à des contraintes pénales par an, mais le bilan a été beaucoup plus modeste la première année avec seulement un millier de peines prononcées. Christiane Taubira restera aussi bien entendu la ministre qui aura dit non à la déchéance de nationalité. Un nom qui lui aura donc coûté sa place de garde des Sceaux.
Antoine Marette, merci.
Le nouveau garde des Sceaux s'appelle donc Jean-Jacques Urvoas. C'est un juriste spécialiste des questions de police et de renseignement proche de Manuel Valls.
Et c'est lui donc qui va épauler le Premier ministre pour tenter de faire adopter cette réforme constitutionnelle sur la déchéance de nationalité. Jean-Jacques Urvoas qui est l'exemple, on peut dire, Benoît Bouscarel, de ce changement de cap gouvernemental.
Urvoas, c'est le choix de la compétence, de l'expérience et de la cohérence, dit l'Élysée ce matin. Cohérence avec la ligne actuelle, peut-être. Cohérence avec le passé récent, c'est peut-être un peu moins sûr. Antoine, à 56 ans, ce valsiste naturel, ancien strauss-kahnien, monsieur sécurité du PS depuis 2008, nommé par Martine Aubry, a longtemps rêvé tout haut du ministère de l'Intérieur en 2012 puis en 2014, après avoir imaginé en 2011 de fusionner les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Il n'en est évidemment plus question aujourd'hui, surtout depuis que l'idée a été reprise par la droite et maintenant que Jean-Jacques Urvoas franchit les portes du ministère. Dans l'autre sens, et toujours en 2011, Jean-Jacques Urvoas s'était montré un adversaire résolu de la loi LOPSI 2 qui étendait considérablement la vidéosurveillance, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme le père du Patriot Act à la française depuis qu'il a été le rapporteur du projet de loi sur le renseignement, un texte qui notamment légalise les pratiques clandestines des services de renseignement. Alors, ce monsieur sécurité qui remplace Madame Droit de l'Homme est-il la figure d'un des nombreux renoncements de la gauche? Le Parti Socialiste, qui fait remarquer que les attentats sont passés par là, préfère parler officiellement d'une vision chez Jean-Jacques Urvoas, nouveau garde des Sceaux, de ce que doit être à gauche l'équilibre entre la sécurité et la liberté.
Merci beaucoup Benoît Bouscarel. On en place donc maintenant aux réactions. Ce matin, à droite, la satisfaction est assez générale pour les Républicains. Guillaume Larrivé, Madame Taubira aura été le pire ministre de la Justice de la Ve République. Christian Estrosi affirme de son côté espérer pour notre pays que la démission de Christiane Taubira entraînera aussi la fin de la politique laxiste de ce gouvernement. Quelques soutiens tout de même en revanche à gauche. Benoît Hamon envoie toute son affection à Christiane Taubira, sa reconnaissance pour son action à la chancellerie. Cécile Duflot salue chaleureusement cette décision de courage et de conviction, la fidélité aux valeurs, donc il y a une force selon Madame Duflot. Et pour le parti de gauche, Éric Coquerel affirme que le Titanic gouvernemental s'enfonce un peu plus sur tribord. Nous saluons notre invité Florian Philippot, bonjour.
Bonjour.
Vice-président du Front National. Alors vous avez dit que c'était une très bonne nouvelle pour la France. Bientôt vous n'aurez plus grand-chose à reprocher à ce gouvernement.
Sur le fond, ça ne règle pas forcément grand-chose. D'autant que nous regarderons et nous serons très vigilants concernant les libertés publiques, puisque M. Urvoas n'est pas réputé être un grand ami des libertés. C'était le monsieur loi renseignement que nous avons combattu pour cette raison-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut que se réjouir du départ de Mme Taubira, qui intervient tardivement, puisque à partir du moment où elle annonçait qu'elle était défavorable au projet de déchéance de nationalité, elle n'avait plus sa place au gouvernement, nous l'avions dit, et elle en tire les conséquences enfin, ou quelqu'un lui a dit d'en tirer les conséquences, je ne sais pas, peu importe. Oui, c'est une bonne nouvelle, parce que Mme Taubira, c'était non pas l'invention du laxisme, le laxisme d'État prévaut depuis bien longtemps. Avant la loi Taubira, il y a eu la loi Dati qui était déjà la petite sœur de cette loi, et Mme Taubira l'a aggravée avec ce laxisme en matière pénale. Mais c'est une bonne nouvelle pour cette raison-là, et c'est une bonne nouvelle aussi parce que Mme Taubira, c'était au-delà du laxisme, c'était le sectarisme. C'était vraiment des propos extrêmement violents contre l'opposition démocratique, des propos bien peu républicains, contre
elle
notamment l'opposition patriote que nous
sommes. Du côté de la droite notamment, et au-delà.
Ah, quand elle a subi des attaques personnelles, nous avons toujours dit que c'était absolument condamnable et inacceptable. Elle en a aussi joué, elle s'est beaucoup victimisée. Mais politiquement, elle avait des propos qui n'étaient pas valables en République.
Florent Philippot, on va parler maintenant de la question de la déchéance de nationalité, cette révision constitutionnelle.
Oui, puisque le Premier ministre est en ce moment devant la commission des lois de l'Assemblée pour défendre le texte de révision constitutionnelle. Le gouvernement va supprimer toute référence aux binationaux afin de répondre aux critiques d'une partie de la gauche sur le risque de discrimination entre Français.
Oui, il reste maintenant quand même à savoir comment on va, avec l'abandon de cette référence aux binationaux, concilier l'autre grand engagement du Premier ministre, de ne pas créer d'apatrides dans le respect de certaines conventions internationales signées par la France. Stéphane Robert, est-ce qu'on est arrivé quand même à un texte maintenant de compromis ?
En fait, la référence aux binationaux n'est pas véritablement abandonnée. Elle est supprimée du texte de révision de la Constitution, mais en revanche, elle devrait figurer dans le texte de la loi organique qui lui précise les conditions d'application concrète de cette réforme constitutionnelle. En gros, on n'inscrit pas la déchéance de la nationalité pour les binationaux de la Constitution, mais elle l'inscrit dans la loi. Loi qui devrait également prévoir une extension au délit, pas seulement au crime, ça c'était une demande de la droite, et puis devrait prévoir également une peine moins lourde de déchéance des droits civiques ou déchéance de citoyenneté pour les mononationaux convaincus de terrorisme. Tout ça est censé remplir l'ensemble des conditions fixées par le chef de l'État et par le Premier ministre pour l'adoption de cette réforme. Un, il fallait respecter l'engagement pris au lendemain des attentats du 13 novembre, à savoir étendre la déchéance de la nationalité aux binationaux nés français. Deux, respecter le fait que la France s'est engagée au niveau international à ne pas créer d'apatrides. Et puis trois, ne pas créer deux catégories de citoyens. D'autres disent ne pas stigmatiser les binationaux. Ça, c'est ce qui crée un gros sentiment de malaise à gauche. Alors maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour faire consensus à droite et à gauche, ou pour le moins faire suffisamment consensus pour recueillir l'aval de 3 parlementaires sur 5, condition pour que cette réforme soit adoptée? Ça reste à voir, car ce que propose Manuel Valls à la droite, même si ça répond en grande partie à ses attentes, n'est pas tout à fait ce qui avait été promis au départ. Et l'opposition peut légitimement lui rétorquer que dans ces conditions, il n'y a pas besoin de réformer la Constitution, hein, changer la loi, ça suffit. Et puis à gauche, nombreux sont ceux qui vont certainement encore s'interroger sur l'opportunité de la voter, cette réforme. D'abord à cause du sentiment de se faire manipuler, et puis beaucoup de députés et sénateurs considèrent que ce qui pose problème, ça n'est pas seulement qu'on fasse une différence entre nationaux et binationaux, c'est surtout qu'on inscrive la déchéance de nationalité dans la Constitution, car ça constitue, disent-ils, une atteinte au droit du sol et au pacte républicain.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Un tout petit mot Florian Philippot là-dessus, ça vous convient ce nouveau texte? On dit parfois que ça ne sert à rien et que ça pose des problèmes.
Oui, en tout cas c'est bien compliqué pour quelque chose d'assez simple, qui est soutenu quand même par une très très large majorité de Français. Ça fait des semaines qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'autres chantiers à mener.
Vous allez voter le texte tel qu'il est là, enfin vos parlementaires?
Vous savez, c'est une idée du Front National. Donc ouais, a priori, moi, le texte que je viens de lire me semble à peu près
vous
valable.
Vous donnez votre quitus.
Me semble valable. Je pense qu'il faudrait utiliser davantage la déchéance de nationalité. Je pense qu'aucun binational ne ressent un risque de discrimination, parce que je pense que, fort heureusement, aucun n'a le projet d'aller faire un attentat en France, donc se sent pas concerné par cette affaire, heureusement. Donc ça, ce sont des propos idéologues décalés de la réalité. Mais il y a d'autres choses à faire. Retrouver des frontières nationales, ça serait une urgence absolue et beaucoup plus efficace encore que cette mesurette.
Le deuxième jour de la mobilisation des taxis contre les véhicules de transport avec chauffeur, plusieurs centaines de chauffeurs encore bloquent les accès aéroports de Roissy et de Toulouse. Le mouvement se poursuit donc malgré la nomination d'un médiateur, le député socialiste Laurent Grand-Guillaume, chargé hier par le Premier ministre de devenir donc le médiateur sur cette question. Pour la plupart des taxis, cette nomination ne va pas changer grand-chose. Une première réunion de conciliation est prévue dans 15 jours maintenant.
France Culture 12h43, suite du journal. Les négociations entre les parties en conflit en Syrie vont-elles pouvoir s'ouvrir après-demain comme prévu? Ce matin, sur France Culture, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, estimait que 3 problèmes demeurent en suspens.
Mais 3 problèmes qui ne sont pas minces. D'abord, qui va participer vraiment à cette réunion? Qu'est-ce qu'on va faire sur le plan humanitaire? Et enfin, de quoi va-t-on parler? Ça fait, Eric Begala, beaucoup de questions à régler pour une réunion qui devrait démarrer dans 48 heures, moins de 48 heures.
Oui, Antoine, le camp de l'opposition moins, la rébellion syrienne est en ce moment même réunie à Riyad en Arabie Saoudite pour justement déterminer si elle participera effectivement à ces négociations. Alors les trois questions évoquées ce matin par le ministre des Affaires étrangères français sont exactement celles que pose et que se pose cette opposition syrienne. D'abord, qui est censé participer à ces négociations qui doivent se tenir à Genève sous égide de l'ONU? Alors depuis décembre, il était arrêté que ces négociations devaient se tenir entre les forces de la rébellion, y compris certaines de ses composantes islamistes d'un côté, le régime de Bachar al-Assad de l'autre. Ni les Kurdes de l'IPG, qui tiennent environ 15% du territoire syrien, ni bien sûr l'État islamique, qui lui en occupe un bon tiers, n'étaient censés y participer. Mais hier, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Staffan de Mistura, a lancé ses invitations aux participants, et parmi les invités, on trouve les représentants politiques des forces démocratiques syriennes. C'est un conglomérat de brigades où les Kurdes de l'IPG dominent très largement. Alors certes, le parti et la milice kurde n'ont pas été invités en tant que tels, mais évidemment, pour l'opposition réunie aujourd'hui à Riyad, ça ne fait pas beaucoup de différence. Pour cette opposition syrienne, les Kurdes en effet ne font pas partie de la rébellion, mais sont plutôt arrangés du côté des proches du régime. Et il est vrai que la milice kurde n'a tout simplement jamais affronté les forces du régime depuis le début de la guerre. La seconde question évoquée par Laurent Fabius ce matin fait partie des prérequis exigés par la rébellion avant de s'asseoir à une table de négociation, que le droit humanitaire soit respecté par le régime et les Russes, qu'ils cessent donc leur bombardement indiscriminé et leur siège des villes et villages, qu'ils permettent enfin à l'aide humanitaire internationale de pénétrer dans ces enclaves. Quant au troisième problème évoqué par le ministre des Affaires étrangères, c'est celui de l'ordre du jour de ces négociations. Pour l'instant, cet ordre du jour n'est pas clair du tout et c'est un semblable flou qui avait fait déraper les dernières négociations de Genève sur la Syrie. C'était il y a exactement 2 ans.
Éric Biegala, la visite en Europe du président iranien Rouhani, attendu cet après-midi à Paris, ce matin à Rome, il assure n'avoir fait aucune demande auprès de ses hôtes italiens pour que les statues dénudées du musée du Capitole qu'il a visité hier soir soient cachées par des paravents pour ne pas l'indisposer. Le Corriere della Sera citait des sources au sein de la délégation iranienne qui avait expliqué hier que les Vénus et autres nus n'avaient pas obtenu l'aval d'une inspection préalable de la délégation iranienne. La mairie de Rome aurait donc accepté de les dissimuler. Monsieur Rouhani ajoute quand même dans sa conférence de presse ce matin que les Italiens sont hospitaliers, qu'ils cherchent à rendre le séjour de leurs invités le plus agréable possible et il les en a remerciés pour cela. Donc, ambiguïté du président iranien sur cette affaire. En tout cas, elle suscite de très vives réactions en Italie, Bruno Cadelli.
C'est bien une question de journaliste. Ce matin à Rome, Hassan Rouhani a tenté de paraître surpris de la polémique sur les statues de nus dont la Vénus capitoline est recouverte lors de sa visite du musée du Capitole. Et le président iranien d'assurer en fait n'avoir fait aucune demande en ce sens auprès des autorités italienne, sauf que la presse italienne, Il Messaggero et la Corriere della Sera affirment en citant des sources iraniennes que ces statues ont déplu à la délégation iranienne. La mairie de Rome a donc accepté de les placer derrière des paravents et les discours de Matteo Renzi et Hassan Rouhani n'ont pas eu lieu à proximité de ces statues comme initialement prévu. Cependant, même s'il n'affirme n'avoir rien demandé, le président iranien a quand même ajouté que les Italiens étaient très hospitaliers et qu'il est remercié pour chercher à rendre le séjour de ses invités le plus agréable possible. D'autant plus que l'Italie a également banni le vin lors du déjeuner d'Hassan Rouhani avec le président de la République, Sergio Mattarella, et du dîner avec Matteo Renzi, y compris pour les convives non musulmans. La presse italienne accuse donc le gouvernement d'avoir trahi l'histoire et le patrimoine du pays au profit de l'économie, car évidemment avec la fin de l'embargo, il est temps de parler de juteux contrats. Une quinzaine d'accords italo-iraniens ont d'ailleurs été signés à cette occasion pour des milliards d'euros. En attendant et en réaction sur les réseaux sociaux, les internautes italiens postent des photos de statues antiques dénudées.
Bruno Cadenne, merci.
La ministre de la Culture, Fleur Pellerin, devrait rendre sa décision au plus vite au sujet du documentaire salafiste menacé d'une interdiction au moins de 18 ans et censé sortir en salle aujourd'hui.
Absolument. Les réalisateurs ont présenté hier une nouvelle version du film à la commission de classification des œuvres du Centre National du Cinéma. Demandez donc un nouveau visa pour ce film dont la sortie était prévue pour aujourd'hui. On n'a pas toujours cette décision qui tarde manifestement, difficile à prendre. Pour quelle raison, Catherine Dutu?
Parce que ce documentaire montre les salafistes tels qu'ils sont et sans filtre. Et la ministre de la Culture est prise entre deux feux. D'un côté, ceux qui estiment que le documentaire n'est pas visible par tous, qu'il n'y a pas assez de distance, de précautions prises avec le discours salafiste. Le film, c'est 72 minutes sans voix off ni commentaire. Des séquences tournées au nord du Mali avant l'interdiction militaire française en 2012. Des interviews de djihadistes à Tombouctou ou à Raqqa en Syrie. Paroles également données à des prédicateurs en Mauritanie ou en Tunisie, entrecoupées d'extraits de propagande tournée donnée par l'organisation État islamique. Des personnes exécutées à l'arme blanche, des images d'une grande cruauté qui avaient posé problème lors d'une première réunion de la commission de classification des visas d'exploitation. Le ministère de l'Intérieur avait émis un avis négatif, un représentant de la place Beauvau estimant que certaines images pouvaient relever de l'apologie du terrorisme. L'interdiction aux moins de 18 ans avait été préconisée, assortie d'un avertissement au public. Cette interdiction aux mineurs, rarissime pour un documentaire, consternante pour le cinéaste Claude Lanzmann qui avait réalisé Shoah en 1985. Claude Lanzmann voit dans le documentaire salafiste, je cite, un véritable chef-d'œuvre éclairant comme jamais aucun livre, aucun spécialiste de l'islam ne l'a fait, la vie quotidienne sous la charia à Tombouctou, en Mauritanie, au Mali, en Tunisie ou encore en Irak. Analyse partagée par des spécialistes du djihadisme qui ont vu le film et qui estiment qu'il n'y a pas de raison de ne pas confronter nos sociétés victimes du terrorisme à l'idéologie qui en est porteuse et à ses adeptes. Des images sans filtre, souligne-t-il, des films de propagande djihadiste sont déjà accessibles sur Internet.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Caroline Brouet, ça sera demain, vous recevez...
C'est vendredi, François Margolin, l'un des deux réalisateurs de ce film, viendra nous parler de la façon dont il a construit son film, ce qui n'est pas sans filtre, hein. C'est vraiment un regard de cinéaste, c'est-à-dire c'est un film construit avec la distance qu'il faut pour un réalisateur, et les deux réalisateurs de ce film disent qu'il faut regarder la réalité en face, un peu comme Ritipan l'a fait avec quelqu'un comme Dutch au Cambodge et la machine S21.
La séquence interview, retour vers vous. Florian Philippot, est-ce qu'il faut interdire ce film au moins de 18 ans? Vous n'avez pas vu? Bon, enfin, non, vous avez un avis peut-être?
Non, on a tous envie, bien sûr, de montrer les choses parce qu'on sait bien que c'est une menace et qu'il faut voir la réalité telle qu'elle est. Ce n'est pas une question facile parce que ça pose la question des plus jeunes, évidemment. Bien sûr, on ne peut pas non plus montrer n'importe quoi aux plus jeunes quand il y a une extrême violence. La seule chose qui me paraît assez hallucinante dans la remarque, c'est l'histoire qu'il pourrait y avoir une apologie du terrorisme. Donc, il me semble
Il y a les discours de salafistes, mais si on considère que ça peut être dangereux...
Oui, la main, pense quel documentaire sur un sujet pourrait devenir l'apologie de quelque chose. Ça n'a pas de sens, vous voyez, ça, à mon avis, ça n'a absolument aucun sens.
C'est uniquement les images.
Après, où est-ce qu'on met les bornes, 18 ans ou plus jeune? On aimerait que ce soit plus jeune parce qu'il faut montrer les choses, et en même temps, on peut pas montrer n'importe quoi à nos enfants. Voilà, c'est tant que j'ai pas vu, je peux pas vous dire des choses plus précises que cela.
Stéphane Robert.
Alors que vous êtes félicité du départ de Christiane Taubira du gouvernement, est-ce que, si le Front National jamais arrive au pouvoir, est-ce que vous reviendrez sur sa mesure phare, qui a été le vote de la loi sur le mariage pour tous, le mariage gay? On sait que ça a été une question un peu... Il y a eu quelques ambiguïtés au Front National, avec certains qui ont défilé, avec les gens qui manifestaient contre, et puis d'autres, comme Marine Le Pen, vous non plus, vous voulez pas défiler. Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je pense que c'est une mesure symbolique, c'est pas sa mesure phare. Je pense que la mesure qui a le plus d'impact sur la vie quotidienne de nos compatriotes, c'est ces mesures en matière pénale. Je pense que ça touche beaucoup plus de monde et ça a beaucoup plus d'impact. Et elle a aggravé le laxisme des lois précédentes. Et c'est là-dessus, bien sûr, que nous reviendrons. Sur la loi du mariage pour tous, notre position a toujours été la même. Nous le remplacerons par un Pax amélioré. Voilà, je pense que ça correspond à ce qui était largement demandé.
En 99, vous étiez contre le Pax. Enfin, le Front National était contre le Pax.
Peut-être. Ça n'a pas dû durer très longtemps. D'autres, beaucoup à l'époque, étaient contre. Je crois que la majorité des députés RPR à l'époque avaient voté contre. Mais en ce qui concerne cette loi, voilà, tout en disant, si vous voulez, que la France a d'autres sujets de préoccupation que ces sujets sociétaux.
Justement.
Quand on est confronté à 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres et des problèmes d'insécurité qui intéressent le ministère de la Justice, on a d'autres choses à faire.
Justement, alors, débat interne au Front National aussi sur cette ligne économique, apparemment, une ligne plus, j'allais dire, sociale et une ligne plus libérale. En quels termes se pose ce débat au sein du Front National?
Mais il n'y a pas de débat de fond.
Ah bon?
Non,
vous débattiez entre vous, vous pourriez avoir un débat de fond.
Non,
entre monsieur Alliot et vous, par exemple.
Non, nous sommes tous souverainistes au Front National. Et dans la souveraineté nationale, c'est la liberté, c'est la liberté de peuple. Il y a la souveraineté économique. Donc, vous savez, on n'est pas souverainiste sur un point et pas sur un autre. On l'est ou on ne l'est pas. Et quand on veut la souveraineté nationale, on veut aussi la souveraineté monétaire. Il y a d'immenses intérêts à retrouver une monnaie nationale. La monnaie nationale, c'est le modèle partagé par plus de 95% des pays du monde. Oui, mais il a dit qu'il était favorable à la sortie de l'euro. Il veut qu'on réfléchisse à la manière de présenter les choses. Et ça, on a tous raison de se poser cette question. Il faut être pédagogue, convaincant, parce qu'il y a des tombereaux de propagande en face. Mais l'intérêt du monnaie nationale, c'est de pouvoir déjà financer ses propres PME. Aujourd'hui, il y a des problèmes de financement bancaire pour des petites entreprises, des artisans, des PME, des PMI. Si on n'a pas de système bancaire national et de monnaie nationale et de politique monétaire nationale, on ne peut pas les financer. Vous voyez, un seul déjà intérêt. L'autre intérêt, c'est de regagner de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui est notre principal compétiteur. Sans monnaie nationale, on partage la même monnaie qui est adaptée à l'Allemagne, mais pas à la France. Autre intérêt d'une monnaie nationale. Ça, c'est très bon pour l'industrie, pour l'emploi, pour l'innovation. Il faut, je pense, l'affirmer avec beaucoup de positivité. Mais c'est une mesure qui s'inscrit dans un schéma global favorable à l'industrialisation moderne, innovante et à l'emploi.
Une dernière question, Stéphane.
Vous allez vous réunir en séminaire début février pour discuter de la stratégie en vue de la présidentielle de 2017. Il s'agit entre autres, si j'ai bien compris, d'essayer de savoir comment le FN peut remporter une élection majoritaire à
comment passer
à
les 50% au deuxième tour.
Comment préparer la conquête du pouvoir. Voilà le thème de ce séminaire. Et on va réfléchir à la question de savoir, bon, on est à notre record historique, donc on ne va pas se flageller. On est le seul parti politique en dynamique aujourd'hui en France. Mais on va se poser la question de savoir pourquoi des gens se mobilisent au second tour contre nous. Hein, et pourquoi? Parce qu'ils ont, moi je les crois de bonne foi, mais ils ont parfois des idées fausses en tête. Notamment certaines personnes âgées qui pensent que nous serions un facteur de conflit, de division de la société française. Eh bien, c'est faux. Moi, nous allons le démontrer quand on veut l'application de l'ordre républicain, de l'autorité, de la loi, et non pas le laxisme, et non pas le communautarisme qui divise. Alors, quand on veut l'assimilation et non pas le communautarisme, alors on est un facteur de paix, d'apaisement et d'unité nationale. Je pense que c'est très important de le dire, de le redire, et de déminer une par une toutes les idées fausses.
Florian Philippot, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un ciel encore gris avec de la pluie sur l'ouest, un peu de soleil sur le centre et sur l'extrême-est. Température 10 à 20 degrés du nord au sud. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Et le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.